Chapitre 4. Roland et Cuthbert. 1. Roland, Cuthbert et Alain sortirent sur le porche du baraquement du Barca environ 2 heures après que Jonas eut quitté la chambre de Coraline au repos des voyageurs. Le soleil était alors bien au-dessus de l'horizon. Il n'était pas des lève-tard de nature, mais Cuthbert résuma la chose ainsi. Il nous faut maintenir une certaine image du monde de l'intérieur en nous montrant non pas fainéant, mais nonchalant. Roland s'étira, écarta les bras vers le ciel en un large Y, puis se baissant, toucha la pointe de ses bottes. Cela lui fit craquer la colonne vertébrale. « Je déteste ce bruit, » dit Alain. Il avait l'air morose et mal réveillé. En fait, il avait eu le sommeil troublé par de drôles de rêves prémonitoires toute la nuit. Des trois, lui seul se trouvait en proie à ce phénomène. À cause du Shining, peut-être, qui, chez lui, avait toujours été développé. « C'est pour ça qu'il le fait, » dit Cuthbert, frappant sur l'épaule d'Alain. « Oh les cœurs, mon vieux! T'es bien trop beau pour déprimer !» Roland se redressa et ils traversèrent la cour poussiéreuse en direction des écuries. À mi-chemin, il s'arrêta si brusquement qu'Alain faillit lui heurter le dos. Roland avait les yeux tournés vers l'est. « Oh !» fit-il d'une drôle de voix stupéfaite. Il sourit même un peu. « Oh !» lui fit écho Cuthbert. « Oh quoi, grand chef ? Oh, joie, je verrai tantôt madame parfumée, ou bien... Oh, crotte, il faut que je bosse avec mes malodorants compagnons toute la sainte journée. » Alain fixait le bout de ses bottes. Neuves et désagréables à porter à leur départ de Gilead, elles étaient maintenant craquelées d'avoir traîné sur toutes les pistes, le talon un peu éculé et aussi confortable que des bottes de travail pouvaient l'être. Les regarder valait mieux que de regarder ses amis pour l'instant. Les railleries de Cuthbert avaient toujours un petit côté tranchant ces jours. Son sens de toujours de la plaisanterie avait cédé la place à quelque chose de déplaisant et de mesquin. Alain s'attendait à tout moment à ce que l'un des colibets de Cuthbert ne fasse exploser Roland comme la gerbe d'étincelle qu'un silex tire d'un morceau d'acier qui l'étendrait raide sur la place d'un coup de poing. En un sens, Alain le souhaitait presque. Ça allégerait l'atmosphère. Mais pas celle de ce matin. « Oh, simplement, oh !» fit Roland d'un ton conciliant. Il se remit en marche. « J'implore ton pardon car je sais que tu ne veux plus en entendre parler, mais je dirai encore un mot au sujet des pigeons, » fit Cuthbert, tandis qu'il scellait leur monture. « Je crois toujours que ce message... »« Je vais te promettre quelque chose, » dit Roland avec un sourire. Cuthbert l'observa avec méfiance. « Si fait, si tu veux toujours expédier un message demain matin par la voie des ailes, eh bien on le fera. On enverra le pigeon que tu choisiras dans l'ouest vers Gilead, porteur d'un message de ton cru attaché à sa patte. Qu'est-ce que t'en dis, Arthur Heath? Ça te va ?» Cuthbert le fixa un instant d'un air suspicieux qui serra le cœur d'Alain. Puis, il rendit son sourire à Roland. « Ça me va, » dit-il. « Merci. » Là-dessus, Roland dit quelque chose dont l'étrangeté frappa Alain et fit résonner sa corde pressionnante d'un frisson d'inquiétude. « Attends avant de me dire merci. » 2.
« Je veux point aller là-haut, Scytherine !» dit Chimie.
Une expression inhabituelle creusait son visage, lisse en temps normal, une grimace craintive, trahissant une certaine agitation.
« C'est une dame qu'elle fait peur, peur comme on meurt, si fait. Et elle a une verrue, juste là !»
Il se toucha le bout du nez, qu'il avait petit, fait au moule et sans protubérance. Coraline, qui hier encore lui aurait arraché la tête avec les dents en le voyant manifester autant d'hésitation, se montrait d'une patience peu coutumière.
« Ce n'est que trop vrai, » dit-elle. « Mais, Chimie, elle te réclame spécialement et elle donne des pourboires. Tu sais ça, et des bons. Ça me ferait une belle jambe si elle me change en poux, » dit Chimie d'un ton grognon. « Pour un poux, un sou, c'est point un sou. »
Néanmoins, il se laissa mener là où Capriccioso, le mulet de l'auberge, était à la tâche. Barky l'avait chargé de 2 petits fûts. L'un, plein de sable, servait de contrepoids. L'autre contenait le graffe nouveau pour lequel Réa avait un penchant.
« Le jour de fête approche !» fit Coraline gaiement. « C'est même pas dans 3 semaines !»
Sifflet !
Chimmy parut rasséréné à cette nouvelle. Il aimait les jours de fête à la folie, les lumières, les pétards, les balles, les jeux, les rires. Pendant les jours de fête, tout le monde était content et ne lui lançait plus de méchanceté.
Si un jeune homme a 10 sous dans sa poche, il se paiera du bon temps à la fête, c'est sûr, dit Coraline.
Oui, ça, c'est bien vrai, Cytherine.
Chimmy avait l'air de quelqu'un qui venait de découvrir l'un des grands principes de l'existence.
Si fait, vrai de vrai.
Coraline mit le licou de Capriccioso dans la main de Chimmy et lui referma les doigts dessus.
Bon voyage, mon garçon. Sois poli avec la vieille chouette, fais-lui ton plus beau salut et arrange-toi pour redescendre de là-haut avant qu'il fasse noir.
Si fait, bien avant,
dit Chimmy, qui, à l'idée de se retrouver sur le chaos après la tombée de la nuit, ne put s'empêcher de frissonner.
Bien avant, aussi sûr qu'il faut casser des œufs pour faire une omelette.
T'es un bon garçon.
Coraline le regarda s'éloigner. Sa sombrera rose enfoncée sur le crâne, il menait le vieux mulet grincheux par le licou, et quand il disparut derrière le sommet de la première pente douce, elle répéta
« T'es un bon garçon, va. »
3. Jonas, posté au flanc d'une crête à plat ventre dans l'herbe haute, laissa passer 1 heure après le départ des morveux du Barca. Il gagna alors le haut de la crête à cheval et les distingua sous la forme de 3 petits points sur la pente brune à une bonne lieue et demie de là. Attelés à leur tâche quotidienne. Aucun signe qu'ils soupçonnassent quoi que ce fût. S'ils étaient plus malins qu'ils ne l'avaient supposé tout d'abord. En tout cas, pas autant qu'ils se l'imaginaient. Il s'approcha jusqu'à 500 mètres du Barca, qui, l'écurie et le baraquement mis à part, n'était plus qu'une carcasse calcinée sous le soleil éclatant de ses débuts d'automne, et attacha sa monture dans un hallier de peupliers qui entourait la source du ranch. Les garçons y avaient étendu du linge à sécher. Jonas dépendit pantalons et chemises des branches basses auxquelles on les avait accrochés, les mit en tas, pissa dessus, puis rejoignit son cheval. L'animal frappa le sol d'un sabot énergique quand Jonas tira la queue du chien de l'une de ses sacoches de sel, comme s'il voulait signifier par là « Bon débat !» Jonas n'aurait pas demandé mieux lui aussi que d'en être débarrassé. Elle commençait à répandre un arôme facilement reconnaissable. De l'autre sacoche, il tira un petit pot de peinture rouge et un pinceau. Il les avait obtenus du fils aîné de Brian Hookie, qui s'occupait aujourd'hui de l'écurie de louage. De son côté, Cy Hookie devait sans doute être à Sidgo à l'heure qu'il était. Jonas gagna le baraquement sans faire l'effort de se cacher, quoique pas grand-chose ne lui eût permis. Il n'y avait d'ailleurs personne de qui se cacher, maintenant que les gamins étaient loin. L'un d'eux avait abandonné un vrai livre, « Homélie et méditation » de Mercer, sur le siège d'un rocking chair sur le porche. Les livres étaient des objets d'une exquise rareté dans l'entre-deux-mondes, en particulier plus on voyageait loin du centre. C'était le premier, à l'exception de quelques volumes conservés à front de mer, que Jonas voyait depuis son arrivée à Mégis. Il l'ouvrit et lut ceci, écrit d'une main féminine assurée. « À mon très cher fils, de la part de sa mère qu'il aime. » Jonas déchira la page, ouvrit le pot de peinture où il trempa ses 2 derniers doigts. Il barra le mot « mère », puis l'ongle de son petit doigt faisant office de plume, il traça au-dessus le mot « pute ». Il accrocha la feuille à un clou rouillé où il était sûr qu'on ne manquerait pas de l'avoir, puis déchira le livre en 1000 morceaux qu'il foula aux pieds. Auquel des garçons avait-il appartenu? Il espéra que c'était à Dearborn, mais ça n'avait pas grande importance. La première chose que remarqua Jonas en entrant, ce fut les pigeons, roucoulant dans leur cage. Il avait imaginé qu'ils devaient utiliser un hélio pour envoyer leur message, mais pas des pigeons. Morbleu, c'était tellement plus finou.
« Je reviens m'occuper de vous dans quelques minutes, » leur dit-il. « Soyez patients, mes amours, picorez et chiez à gogo tant que vous le pouvez encore. »
Il regarda autour de lui avec une certaine curiosité, le doux roucoulis des pigeons lui berçant l'oreille. « Des gars ou des seigneurs ?» avait demandé Roy au vieux de Rizzi. Et le vieillard lui avait dit « Les deux, peut-être bien. » Des gars propres sur eux, en tout cas, à en juger par l'ordre qui régnait dans les lieux, songea Jonas. Bonne éducation. Trois couchettes, toutes le lit fait. Trois tas d'affaires personnelles au pied de chaque, impeccablement empilées. Dans chaque tas, il trouva le portrait d'une mère. Oh, quel bon fils il faisait! Et dans l'un d'eux, celui des deux parents. Il avait espéré découvrir des noms, peut-être de quelconque papier, et même des lettres d'amour de cette fille, qui sait. Mais non, rien de cette sorte. Gars ou seigneurs, ils étaient plutôt prudents. Jonas retira les portraits de leur cadre et les déchiqueta. Il éparpilla ensuite leurs effets à tout vent, détruisant ce qu'il pouvait dans le temps limité qui lui était imparti. Tombant sur un mouchoir de lin dans la poche d'un pantalon habillé, il y vida son nez avant de l'étendre scrupuleusement sur les bottes d'apparat de son propriétaire, de façon à bien mettre en valeur sa traînée de morve verdâtre. Quoi de plus insupportable, de plus déstabilisant, que de rentrer chez soi après une journée de dur labeur à pointer du bétail et de trouver la morve d'un inconnu sur l'un de vos effets personnels. Les pigeons s'agitaient à présent. Bien en peine de criailler comme des geais ou des corneilles, ils n'en essayèrent pas moins de volter loin de lui quand il ouvrit leur cage. Tout cela en vain, évidemment. Il les prit, un par un, et leur tordit le cou. Pour parachever ce haut fait, Jonas fourra un oiseau mort sous l'oreiller de crin de chacun des garçons. Sous l'un d'eux, il découvrit en prime un stock de bandelettes de papier et un stylo à réservoir qui devait servir à n'en pas douter à la confection des messages. Il brisa le stylo et le lança à travers la pièce, mais empocha les bandelettes. Le papier, ça pouvait toujours servir. Le sort des pigeons réglé, on s'entendait mieux. Jonas se mit à arpenter le plancher de long en large, tendant l'oreille. 4. Quand Alain le rejoignit au galop, Roland ignora la figure blême et hagarde de son ami, comme ses yeux brûlants d'effroi. « J'en ai dénombré 31 de mon côté, » fut-il. Ils portaient tous la marque de la baronnie, couronne et écusson inclus. « Et toi ?»«
Il faut qu'on rentre, » dit Alain. « Quelque chose ne tourne pas rond. C'est le Shining. Je ne l'ai jamais ressenti aussi fortement. »«
Quel est ton compte ?» insista Roland. Il y avait des moments, celui-ci en était un, où il jugeait le don de Shining d'Alain plus fâcheux qu'utile.
40 ou 41, j'ai oublié. Mais qu'est-ce que ça fait? Ils ont déplacé ceux qu'ils ne veulent pas nous voir compter. Tu m'as pas entendu, Roland? Il faut qu'on rentre. Quelque chose cloche au campement.
Roland jeta un coup d'œil à Bert, qui chevauchait paisiblement à 500 mètres de là. Puis il regarda à nouveau Alain, le sourcil levé en une interrogation muette.
« Bert? Il a jamais été sensible au Shining, tu le sais bien. Moi, je le suis. Ça aussi, tu le sais. Roland, je t'en prie. Qui que ce soit, il va voir les pigeons. Peut-être même trouver nos armes. »
Alain, si flegmatique en temps normal, en pleurait presque.
« Si tu ne veux pas t'en retourner avec moi, donne-moi au moins la permission de rentrer. Donne-moi la permission, Roland, pour l'amour de ton père. »
Pour l'amour du tien, je n'en ferai rien, répondit Roland. Mon chiffre est 31, le tien 40. Oui, on va dire 40. 40, c'est un bon chiffre. Aussi bon qu'un autre, j'intuite. Maintenant, on va changer de côté et recompter.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
Chuchota presque Alain. Il regarda Roland comme si ce dernier était devenu fou. Rien ?
Tu le savais ? T'étais au courant quand on est parti ce matin ?
Oh, il se pourrait que j'aie aperçu quelque chose, dit Roland. Un reflet, peut-être, mais... Tu me fais confiance, Al. C'est tout ce qui importe, je crois. Est-ce que tu me fais confiance, ou bien crois-tu que j'ai perdu l'esprit en même temps que mon cœur ? Comme il le croit, lui. Il indiqua d'un violent coup de tête la direction de Cuthbert. Roland fixait Alain, un léger sourire aux lèvres, mais le regard lointain et implacable, le regard bleu horizon de Roland. Alain se demanda si Suzanne Delgado lui avait déjà vu cette expression, et si oui, qu'est-ce qu'elle en avait conclu ?
Je te fais confiance.
Mais Alain nageait dans une telle confusion qu'il ne savait plus si c'était un mensonge ou bien la vérité. Bon, alors change de côté avec moi. Mon chiffre est 31, n'oublie pas.
31,
acquiesça Alain. Levant les mains, il les laissa retomber sur ses cuisses, qu'il claqua si sèchement que sa monture flegmatique d'ordinaire coucha les oreilles et dansota un tantinet sous lui.
31,
répéta-t-il.
Je crois qu'on pourra rentrer plus tôt aujourd'hui, si ça doit te faire plaisir,
dit Roland avant de s'éloigner sur son cheval. Alain le suivit des yeux. Il s'était toujours demandé ce que Roland avait dans la tête, mais jamais autant qu'à présent. 5.
Crac. Crac, crac.
Jonas entendit enfin ce qu'il avait guetté vainement, et cela juste à l'instant où il allait abandonner ses recherches. Il s'était attendu à découvrir leur planque un peu plus près de leur lit, mais il n'était pas né de la dernière pluie. Parfait. Posant un genou à terre, il souleva avec la lame de son couteau la latte qui avait craqué sous son pas. Il y avait en dessous 3 baluchons de cotonnade. Ses lambeaux de chiffon étaient humides au toucher et fleuraient bon l'huile d'arme à feu. Jonas sortit les paquets et les défit, curieux de voir la sorte de calibre que ses genoux trimbalaient avec eux. La réponse était banale, mais pouvait servir. 2 des baluchons contenaient de simples revolvers à 5 coups, du modèle qu'on appelle, pour une raison inconnue de moi, des dépeceurs. Le 3e, en revanche, contenait 2 6 coups de meilleure qualité que les susnommés dépeceurs. En fait, le cœur de Jonas cessa de battre un instant, ce dernier croyant avoir mis la main sur les gros revolvers d'un pistolero. Canon d'authentique acier bleui, crosse de santal, âme aussi large que des puits de mine. De telles armes, il n'aurait pas pu les abandonner là, quel qu'en soit le coup pour ses plans. Remarquer que leur crosse n'était pas incrustée, mais uniforme, fut donc un soulagement pour lui. On ne recherche jamais consciemment la déception, mais elle a le don extraordinaire de vous remettre les idées d'aplomb. Après avoir réenveloppé les armes, il les remit en place ainsi que la lame du plancher. Une bande de vandales tarés de la ville pouvait toujours venir ici et saccager le baraquement laissé sans surveillance, éparpillant à tout va ce qu'il n'avait pu mettre en pièces. Mais découvrir une cachette comme celle-là...
Non, fiston. Jamais de la vie. Tu penses vraiment qu'ils vont croire que ce sont des hooligans de la ville qui ont fait ça?
Ça se pouvait. Ce n'était pas parce qu'il les avait sous-estimés au départ qu'il devait maintenant tourner casaque et les surestimer. Et il avait le luxe de ne pas avoir à s'en inquiéter. Dans un cas comme dans l'autre, la chose les mettrait en colère, assez en colère pour leur faire contourner à fond de train leur but, peut-être bien leur faire jeter toute précaution aux 4 vents et récolter la tempête.
Jonas fourra la queue de chien sectionnée dans l'une des cages à pigeons, dont elle dépassait comme un énorme plumet moqueur. Avec la peinture, il écrivit des graffitis d'une puérilité charmante comme « Sus ma bite » ou encore « Go home, salope de riche » sur les murs avant de quitter les lieux. Il s'arrêta un instant sur le porche pour s'assurer qu'il avait encore le barca à lui tout seul. Et bien sûr qu'il l'avait. Cependant, un centième de seconde ou deux vers la fin, il avait ressenti un léger malaise, presque comme si quelqu'un avait flairé sa présence. Par le biais d'une sorte de don de télépathie propre au monde de l'intérieur, peut-être. « Ça existe, et tu connais, le Shining, on appelle ça. » Si fait, mais seuls s'en servaient les pistoleros, les artistes et les fouailliers. Pas les petits garçons, qu'ils soient simples gars ou seigneurs. Jonas alla néanmoins retrouver son cheval, au trot ou presque, l'enfourcha et prit le chemin de la ville. Les choses atteignaient leur point d'ébullition et il y avait encore fort à faire avant que la pleine lune du démon ne monte au ciel. 6. La masure de Réa, ses murs de pierre et les guijarros fendus de son toit, couverts de mousse, se tapissaient sur la dernière colline du Chaos. Au-delà, on avait une vue magnifique sur le nord-ouest, la mauvaise herbe, le désert, la roche suspendue, Vero Canyon. Mais les panoramas touristiques étaient le dernier des soucis de Chimie quand il fit entrer prudemment Capriccioso dans la cour de Réa, peu après-midi. Il mourait de faim depuis une bonne heure, mais pour le moment, ses tiraillements d'estomac avaient disparu. Il détestait cet endroit plus que tout autre de la baronnie, bien plus même que Sidgo et ses grosses tours qui n'arrêtaient pas de cric-craquer et de clic-clacter.
« Saï ?»
appela-t-il en mettant le mulet dans la cour. Capriccioso refusa d'avancer à proximité de la masure, les sabots enfoncés dans le sol et la tête baissée. Mais quand Chimie tira sur le licou, il céda. Chimie en fut presque navré pour lui.
« Madame ?» « Oh, vous, vieille jante dame qui ferait point de mal à une mouche, vous êtes dans les parages? C'est ce bon vieux Chimie qui vous apporte votre graffe. »
Il sourit et tendit sa main, paume tournée vers le ciel, pour offrir la preuve de son inoffensive délicatesse, mais de la masure ne provenait toujours nulle réaction. Chimie sentit ses tripes se nouer, puis fut pris de colique. À l'instant, il crut qu'il allait chier dans son froc, tout comme un enfonçon. Puis, il fit un vent et se sentit mieux. Au niveau de ses boyaux, s'entend. Il continua d'avancer, aimant de moins en moins ça à chaque pas. La cour était rocailleuse, parsemée de mauvaises herbes jaunies, comme si l'occupante des lieux avait par son toucher rendu stérile la terre même. Le jardin potager offrait encore quelques légumes, potirons et âpres raves pour l'essentiel, mais Chimie s'aperçut qu'il s'agissait de muter. Puis, dans ce même potager, il vit le pantin de chiffon. Lui aussi, c'était un muté. Un vilain coco à deux têtes de paille au lieu d'une, et une sorte de main de femme, gantée de satin, lui sortait de la poitrine.
« Thythery ne me convaincra plus jamais de remonter par ici, » songea-t-il. « Même pas pour tous les sous du monde. »
La porte de la cabane était ouverte, béante, telle la gueule d'un four d'après Chimie. Une odeur d'humidité nauséabonde s'en échappait. Chimie se tenait à 15 pas de la maison, et quand Capriccioso lui taquina l'arrière-train du naseau, comme pour lui demander ce qu'il y retenait, le garçon poussa un cri aigu. Il faillit s'enfuir à toutes jambes à l'ouïe de son propre cri et dut exercer toute sa volonté pour rester sur place. La journée était d'une clarté lumineuse, mais au sommet de la colline, le soleil semblait sans objet. Ce n'était pas la première fois que Chimie montait ici, et ça n'avait jamais été une partie de plaisir, mais aujourd'hui, c'était encore pire. L'endroit lui provoquait la même sensation que le son de la tramée quand il l'entendait en se réveillant au cœur de la nuit. Comme si une horreur rampait vers lui, une horreur aux yeux fous et aux griffes rouges.
« Ça aille? Y a quelqu'un?
Approche.
La voix venait de la porte ouverte.
Avance que je te vois mieux, espèce de crétin.
Tâchant ni de crier ni de gémir, Chimmy obéit à la voix. Il avait dans l'idée qu'il ne redescendrait pas de cette colline. Capriccioso à la rigueur, mais pas lui. Ce pauvre vieux Chimmy allait finir dans la marmite. Plat de résistance ce soir, soupe demain, viande froide jusqu'au terme de l'année. Voilà ce qu'il est à devenir de lui. Il s'avança contre son gré et avec des jambes en coton jusqu'au seuil de la maison de Réa. Ses genoux auraient pu jouer des castagnettes, les eût-il serrés. Même Réa n'avait plus la même voix.
Ça aille ! J'ai peur ! Si fait !
Et tu fais bien,
reprit la voix. Ses intonations traînantes s'échappaient par la porte comme des bouffées de fumée écœurantes.
Et t'occupe et approche, Chimmy, fils de Stanley.
Chimmy fit ce qu'elle disait, malgré la terreur qui plombait chacun de ses pas. Le mulet suivit, l'oreille basse. Capriccioso, qui avait braie comme un putois pendant toute la montée, braiement incessant, s'était tu.
« Ainsi te voilà !»
chuchota la voix ensevelie dans les ténèbres.
« Te voici donc !»
Elle sortit au soleil qui baignait le seuil de la porte, clignant des yeux un instant ébloui. Elle serrait dans ses bras le tonneau de graffe vide. Hermotte était levé en collier autour de son cou. Chimmy avait déjà vu le serpent. Et les fois précédentes, il n'avait jamais manqué de se demander quelles atroces souffrances lui infligerait son agonie si jamais il était piqué par lui. Aujourd'hui, de telles pensées ne lui traversèrent pas l'esprit. Comparé à Réa, Hermotte avait l'air des plus normales. Les joues de la vieille s'étaient creusées, donnant au reste du visage des allures de tête de mort. La peau du crâne, entre ses cheveux clairsemés et son front bombé, était envahie d'une armada de taches brunes. Sous son œil gauche béait un ulcère, et son rictus ne cernait plus que de rares dents.
« T'aimes point à quoi je ressemble, hein ?»
demanda-t-elle.
« Ça te fait froid au cœur, pas vrai ?»
Non,
fit Chimmy, ajoutant très vite, parce que ça lui parut plus juste.
Oui, je veux dire.
Mais Dieu, cette réponse lui sembla encore pire.
Vous êtes très belle, Sai,
lâcha-t-il, tout à trac. Elle émit un rire creux, quasi muet, et lui fourra le fût vide entre les bras avec une force qui faillit le faire choir sur le cul. Ses doigts l'effleurèrent à peine, mais Chimmy n'en eut pas moins la chair de poule.
Ça perd les popettes. Beau tu es, c'est bien ce qu'on dit, hein? Moi, ça me va, comme un gant. Si fait, donne-moi mon graphe. « Idiot de gamin !»«
Oui, Sai, tout de suite, Sai !»
Chimmy emporta le fût vide jusqu'au mulet, le déposa et commença à défaire gauchement les cordes qui maintenaient le petit tonneau de graffe nouveau. Il sentait le regard de Réa posé sur lui, et ça aggravait sa maladresse, mais il réussit enfin à détacher le tonneau. Il faillit lui échapper des mains, et un bref instant cauchemardesque, il crut qu'il allait tomber sur le sol pierreux et s'y fracasser, mais il rétablit sa prise de justesse. Il le lui apporta, et le temps de noter qu'elle n'avait plus le serpent en sautoir, il sentit ses reptations sur ses bottes. Hermotte dressa la tête vers lui en sifflant et dénuda une double rangée de crocs en un rictus d'une étrangeté à donner le frisson.
Modère tes mouvements, mon garçon. Ça serait plus sage, Hermode et Grincheux, aujourd'hui. Entre et mets le tonneau juste là, derrière la porte. Il est trop lourd pour moi. J'ai sauté des repas dernièrement. Si fait.
Chimie se cassa en deux. Salue-la de ton plus beau salut, lui avait dit Saïsorin. Et voilà qu'il lui obéissait. Grimaçant à tout va, n'osant pas bouger un orteil, et alléger ainsi la tension de son dos, à cause du serpent campé sur ses pieds. Quand il se redressa, Réa lui tendait une vieille enveloppe tachée. Le rabat était scellé d'une goutte de cire rouge. Chimie redouta d'imaginer ce qu'on avait bien pu faire fondre pour obtenir une cire pareille.
« Prends ceci et donne-le à Cordelia Delgado. Tu la connais ?»«
Si fait, bredouilla Chimie. C'est la tantine de Suzanne Sai. »«
C'est ça. »
Chimie tendit une main hésitante vers l'enveloppe, mais Réa retira la sienne un instant.
Tu sais point lire, hein, que tu sais point, idiot de gamin.
Nenny, les mots et les lettres, ils veulent point rester dans ma tête.
Bien, bien. Prends soin de ne point montrer ceci à quelqu'un qui sache où, un de ces soirs, Hermote t'attendra sous ton oreiller. Je vois loin. Chimie, tu m'enregistres? Je vois loin.
Ce n'était qu'une enveloppe, et pourtant Chimie trouvait qu'elle pesait des tonnes, et jugeait effrayant de l'avoir entre les mains, comme si elle était faite de peau humaine au lieu de papier. Quel genre de lettre Réa pouvait-elle bien envoyer à Cordelia Delgado?
Chimie se rappela le jour où il avait vu Saï Delgado, le visage couvert de toile d'araignée, ou tout comme, et fut pris de frisson.
L'horrible créature qui se dissimulait devant lui dans l'embrasure de sa masure pourrait bien être celle qui avait tissé ces mêmes toiles d'araignée.
Si jamais tu la perds, je le saurai, murmura Réa. Si tu la montres à quelqu'un d'autre, je le saurai. « Souviens-t'en, fils de Stanley, je vois loin. »«
Je ferai attention, Sai. » Il vaudrait peut-être mieux qu'il perde l'enveloppe, mais il n'en ferait rien. Chimie avait beau être faible d'esprit, comme tout un chacun le disait. Il n'était pas au point de ne pas avoir compris pourquoi on l'avait fait monter jusqu'ici. Pas pour livrer un tonneau de graffe, mais pour qu'on lui confie cette lettre et qu'il la remette en main propre à sa destinataire.
« T'aurais point envie d'entrer un moment ?» susurra-t-elle soudain, pointant un doigt sur l'entrecuisse de Chimie. « Si tu manges un petit morceau de champignon de ma spécialité, je prendrai la figure de la personne qui te plaît. Si fait. »
Oh, mais je peux point, fit-il, agrippant son pantalon à deux mains, avec un très grand sourire, ressemblant au cri de tout son être qu'il n'arrivait pas à pousser.
Ce machin-ci en kikinant, il est tombé tout seul la semaine dernière. Si fait.
À l'instant, Réa le regarda, bouche bée, vraiment surprise pour l'une des rares fois de sa vie. Puis à nouveau, elle partit de son rire creux et étouffé. Elle se tenait le ventre de ses mains cireuses, se balançant d'avant en arrière sous le coup de l'hilarité. Hermode se sauva craintivement dans la maison, vers zigzag à rallonge. Quelque part à l'intérieur, le chat salua le retour du serpent en crachant.
« Allez !» fit Réa,
riant toujours. Elle se pencha, et laissa tomber 3-4 piécettes dans la poche de sa chemise.
« Va-t'en d'ici, espèce de grand flandrin, et musard de poing non plus, à regarder les fleurs !»«
Nelly, saille ?»
Avant d'avoir pu en dire plus, elle lui claqua la porte au nez si fort que de petits nuages de poussière s'insinuèrent par les planches disjointes. 7. Roland surprit Cuthbert en suggérant sur le coup de 2 heures de l'après-midi qu'il retourne au Barca. Cuthbert demanda pourquoi. Roland se contenta de hausser les épaules, refusant d'en dire davantage. Bert, regardant Alain, aperçut sur son visage une étrange expression rêveuse. Comme ils approchaient du baraquement, Cuthbert fut saisi d'un mauvais pressentiment. Arrivant au sommet d'une côte, ils observèrent le bar K en contrebas. La porte du baraquement était ouverte.
« Roland !»
s'écria Alain. Il montra du doigt le bosquet de peupliers qui marquait l'emplacement de la source du ranch. Leurs vêtements, qu'ils avaient laissés soigneusement étendus à sécher, étaient à présent dispersés aux quatre diables. Cuthbert descendit de sa monture et courut vers eux. Il ramassa une chemise et la jeta au loin après l'avoir reniflée.
« On a pissé dessus !»
s'écria-t-il avec indignation. « Venez, » fit Roland. « Allons voir les dégâts. » 8. Et les dégâts étaient nombreux. « Comme tu t'y attendais, » songea Cuthbert, l'œil fixé sur Roland. Puis il se tourna vers Alain, qui, rembruni, n'avait pas l'air surpris outre mesure. « Comme vous vous y attendiez, tous les deux. » Roland se pencha sur le cadavre de l'un des pigeons et en extirpa quelque chose de si fin que Cuthbert ne distingua pas d'emblée de quoi il s'agissait. Puis il se redressa et, le tenant entre le pouce et l'index, le montra à ses amis. C'était un simple cheveu, très long, très blanc. Ouvrant les doigts, il le laissa voleter sur le sol où il atterrit parmi les restes du portrait déchiré des parents de Cuthbert Allgood.
« Si tu savais que le vieux charognard était ici, pourquoi on n'est pas revenu lui couper le sifflet ?»
Cuthbert se surprit à demander.
« Parce que le moment était mal choisi, » dit Roland doucement.
« Lui, ce serait pas gêné si l'un de nous était allé chez lui saccager ses affaires. »«
Mais nous ne sommes pas lui, » dit Roland doucement.
« Je vais le retrouver, lui exploser les dents et le faire cracher par la nuque. »«
Certainement pas, » dit Roland doucement.
Au prochain mot prononcé doucement par Roland, Bert allait devenir fou. Toute notion de camaraderie et de cathète avait déserté son esprit, oblitéré par une colère noire pure et simple. Jonas était venu ici. Il avait pissé sur leurs habits, traité la mère d'Alain de pute, déchiré les portraits auxquels ils tenaient comme à la prunelle de leurs yeux, peint des obscénités puériles sur les murs et tué leurs pigeons voyageurs. Roland l'avait su, n'avait rien fait, avait l'intention de continuer à ne rien faire. À part baiser sa gueuse, il pourrait le faire à foison si fait, puisque c'est tout ce qui lui importait maintenant.
Mais elle va pas beaucoup aimer ton portrait la prochaine fois que tu la montras en selle. « Songea Cuthbert. Je m'en vais veiller à ça. » Il s'apprêtait à lui donner un coup de poing, mais fut arrêté dans son geste par Alain.
Roland se détourna et se mit à ramasser les couvertures éparses, comme si l'air furieux et le poing levé de Cuthbert ne le concernaient tout bonnement pas. Cuthbert serra l'autre poing, comptant obliger Alain à le lâcher coûte que coûte. Mais à voir la face ronde et honnête de son ami, toute candeur et consternation dehors, sa rage se calma un peu. Il n'avait pas de différend avec Alain. Cuthbert était sûr que son camarade avait su qu'il se passait quelque chose de moche ici. Mais il était certain aussi que Roland avait insisté pour qu'Alain ne bouge pas tant que Jonas n'était pas parti.
« Suis-moi, » marmonna Alain en tourant les épaules de Bert de son bras.
Dehors. Au nom de ton père, viens. Il faut que tu lâches la pression. C'est pas le moment qu'on se batte entre nous.
C'est pas le moment non plus pour que notre chef perde la boule en se vidant les couilles,
fit Cuthbert sans faire l'effort de baisser la voix. Mais quand Alain le tira par la manche une seconde fois, Bert se laissa entraîner vers la porte. Je vais laisser retomber ma colère contre lui encore cette fois, soit, songea-t-il. Mais je pense, non, je sais, que ce sera la dernière. Il faudra que je dise à Alain de le prévenir. L'idée d'utiliser Alain comme intermédiaire entre lui et son meilleur ami, de savoir que les choses en étaient arrivées à ce point, remplissait Cuthbert de désespoir et de fureur. Et sur le seuil, il se retourna vers Roland.
« Elle a fait de toi un lâche !»
dit-il dans le haut-parler. À ses côtés, Alain retint son souffle, estomaqué. Roland, dos à eux, les bras chargés de couverture, s'immobilisa comme métamorphosé soudain en pierre. À cet instant, Cuthbert fut persuadé que Roland allait faire volte-face et se précipiter sur lui. Il se battrait probablement jusqu'à ce que l'un d'eux meure, soit aveugle ou KO. Et probablement que ce serait lui. Mais il s'en fichait éperdument. Mais Roland ne fit pas volte-face. Au lieu de ça, il dit, adoptant lui aussi le haut-parler, « Il est venu nous dépouiller de notre ruse et de notre prudence. Avec toi, il a réussi son coup. »«
Non, dit Cuthbert, revenant au bas langage. « Je sais qu'une partie de toi le croit, mais c'est pas vrai. » Ce qu'il est, par contre, c'est que tu as perdu la boussole. Tu baptises amour ton insouciance et tu te fais une vertu de ton irresponsabilité pour l'amour des dieux. Viens.
Alain, grognant à demi, le tira au-delà de la porte. 9. Une fois Roland hors de sa vue, Cuthbert, malgré qu'il en ait, sentit sa rage se reporter contre Alain. Telle une girouette au gré du vent. Tous deux se faisaient face dans la cour ensoleillée. Alain avait un air malheureux et angoissé. Cuthbert serrait les poings si fort qu'il en tremblait.
« Pourquoi tu l'excuses toujours? Pourquoi ?»«
Là-haut, sur l'aplomb. Il m'a demandé si je lui faisais confiance. Je lui ai dit que oui. Et c'est vrai. »«
Alors t'es un imbécile. »«
Et lui, un pistolero. » S'il dit qu'on doit encore attendre, c'est qu'il le faut.
C'est un pistolero par accident, un phénomène de foire, un muté.
Alain le dévisagea, muet de saisissement.
Viens avec moi, Alain. Il est temps de mettre fin à ce jeu de dingue. On va aller trouver Jonas et le tuer. Notre cas-tête est brisé. Toi et moi, on va en former un nouveau.
Il n'est pas brisé? Si jamais il se brise, ce sera toi le responsable, et je ne te le pardonnerai jamais.
C'était maintenant au tour de Cuthbert de rester muet.
Pourquoi t'irais pas faire une longue balade à cheval, pour retrouver ton sang-froid? Tant de choses dépendent de notre camaraderie.
Va le lui dire à lui!
Non, c'est à toi que je le dis. Jonas a insulté ma mère. Tu crois que je ne te suivrais pas rien que pour la venger si j'étais pas persuadé que Roland a raison? Qu'est-ce que cherche Jonas? Si ce n'est qu'on perde la tête et qu'on contourne notre but en cherchant à l'aveuglette.
C'est vrai et faux en même temps, dit Cuthbert.
Cependant, ses doigts se desserraient lentement.
Tu ne vois rien et je n'ai pas les mots pour me faire comprendre. Si je te dis que Suzanne a empoisonné l'eau du puits de notre cas-tête, tu vas me traiter de jaloux. Et pourtant je pense qu'elle l'a fait, sans le savoir ni le vouloir. Elle lui a empoisonné l'esprit et la porte de l'enfer s'est ouverte. Roland sent la chaleur qui vient par cette porte et la confond avec ce qu'il ressent pour elle. Mais nous, on doit faire mieux, Al. On doit penser mieux. Pour lui, comme pour nous-mêmes et pour nos pères.
Tu la juges notre ennemi?
Non! Ce serait plus facile si elle l'était.
Il prit une profonde inspiration, expira, inspira, puis expira à nouveau, inspira, expira une troisième fois. Il se sentait de plus en plus sain d'esprit, se retrouvant lui-même.
Peu importe. Il n'y a rien à dire d'autre sur ce sujet pour le moment. Je vais suivre ton conseil qui me paraît bon. Je crois que je vais aller faire un tour à cheval. Un long tour.
Burt se dirigea vers sa monture quand il se retourna une dernière fois.
Dis-lui qu'il a tort. Dis-lui que même s'il a raison d'attendre, ses bonnes raisons sont mauvaises et qu'il a donc tort sur toute la ligne.
Il hésita avant de poursuivre.
Raconte-lui ce que je t'ai dit sur la porte de l'enfer. Dis-lui bien que c'est ce que m'a dit mon petit Shining à moi. Tu lui diras ?
Oui. Ne t'approche pas de Jonas, Bert. Cuthbert se mit en selle.
Je ne promets rien.
Tu n'es pas encore un homme ? Fit Alain d'une voix pleine de tristesse, au bord des larmes.
Aucun d'entre nous n'en est un.
Espérons que tu te trompes, dit Cuthbert, car c'est un boulot d'homme qui nous attend.
Et faisant tourner bride à son cheval, il s'éloigna au galop. 10. Il remonta assez loin la route maritime, tâchant au début de ne pas penser. Il avait découvert que parfois des idées inattendues vous venaient à l'improviste si vous leur teniez la porte ouverte et se révélaient souvent précieuses. Mais rien de tel ne se produisit cet après-midi-là. Confus, malheureux et l'esprit vide de toute idée nouvelle, et sans même l'espoir qu'une ne survienne, Burt avait finalement rebroussé chemin vers Hambury. Il arpenta la grande rue d'un bout à l'autre, sans descendre de cheval, faisant signe de la main ou s'arrêtant pour parler aux gens qui le saluèrent d'un « Haïlé ». Tous trois avaient connu nombre de gens bien dans cette ville. Ils en considéraient certains comme des amis et sentaient que les petites gens d'Hambury les avaient adoptés, eux, si jeunots, si loin de chez eux et de leur famille. Et plus Burt apprenait à connaître ces gens-là, moins il les soupçonnait de faire partie du sale petit jeu que jouaient Rimmer et Jonas. Pourquoi l'homme de bien avait-il jeté son dévolu sur Hambury, si ce n'était qu'elle fournissait une excellente couverture? Il y avait beaucoup de monde dehors ce jour-là. Le marché des produits fermiers était en pleine effervescence. Les échoppes sur rue étaient bondées, les enfants riaient à un spectacle de marionnettes où l'on voyait Guignon courser le pauvre Niafrol, son souffre-douleur de toujours, pour lui administrer une volée de coups de bâton. Et on s'activait à qui mieux pour les décorations de la fête de la moisson. Pourtant, Cuthbert ne sautait pas de joie en pensant à la fête. Parce qu'il n'était pas chez lui, que ce n'était pas la moisson de Gilead? Peut-être. Mais avant tout, parce qu'il avait le cœur lourd et qu'un plus grand poids encore plombait son esprit. Si grandir faisait cet effet-là, il songeait qu'il se serait bien passé de cette expérience. Il sortit de la ville, laissant l'océan derrière lui. Il avançait face au soleil, et son ombre s'étirait toujours plus longue dans son dos. Il songeait qu'il quitterait bientôt la grande route pour gagner le Barca, en chevauchant à travers l'aplomb. Mais, avant de pouvoir faire ouf, voici qu'il vit venir son vieil ami, Chimie, menant un mulet. Chimie avançait, tête basse, épaules tombantes, sa sombrère à rose de travers, les bottes pleines de poussière. Cuthbert eut l'impression qu'il revenait à pied de l'autre bout de la terre. « Chimie !» s'écria Cuthbert, anticipant le rictus joyeux du simplet et son baratin loufoque.
« Que tes journées soient longues et tes nuits plaisantes !» Comment va-t-?
Chimie releva la tête, et tandis que le bord de sa sombrera lui découvrait la figure, Cuthbert se tut devant l'expression terrorisée du garçon. Il avait le teint livide, l'œil hagard et la lèvre tremblante. 11. Chimie aurait pu atteindre la maison d'Elgado deux bonnes heures plus tôt s'il l'avait voulu.
mais il avait traîné comme une tortue, comme si la lettre dont il était porteur freinait son pas. C'était affreux, trop affreux. Il pouvait même point y penser, car son cogiteur était cassé, si fait. En un éclair, Cuthbert fut au bas de son cheval et se pressa vers Chimie. Il le saisit aux épaules.
« Qu'est-ce qui se passe ?
Raconte à ton vieux copain. Il se moquera pas de toi, parole. » En entendant la voix pleine de sympathie d'Arthur Heath et en le voyant si plein de sollicitude, Chimie se mit à pleurer. L'ordre formel de Réa de ne rien dire à personne lui était sorti de la tête. Il fit un récit complet, entrecoupé de sanglots, de ce qui lui était arrivé au cours de la matinée. À deux reprises, Cuthbert lui demanda de ralentir son débit. Mais ce ne fut qu'une fois qu'il eut conduit Chimie à l'ombre d'un arbre, où ils s'assirent tous deux, que ce dernier put y arriver. Cuthbert l'écouta avec un malaise grandissant. À la fin de son histoire, Chimie sortit une enveloppe de sa chemise. Cuthbert brisa le sceau et lut le contenu. Ses yeux devinrent grands comme des soucoupes. 12. Roy de Pape attendait Jonas au repos des voyageurs quand ce dernier revint d'excellente humeur de son expédition au Barca. Une estafette avait fini par pointer son nez, lui annonçant de Pape et la bonne humeur de Jonas monta encore d'un cran. Sauf que Roy n'avait pas l'air aussi satisfait que Jonas l'aurait cru. Et même pas satisfait du tout. « L'individu a poussé jusqu'au front de mer, où je devine qu'il est attendu, » dit de Pape. « Il veut le voir tout de suite. Si j'étais toi, je m'attarderais pas à grignoter ici, pas même un popkin. Je boirais même pas un coup. » Faut mieux avoir l'esprit clair pour traiter avec ce genre d'individu.
On conseille gratis aujourd'hui, pas vrai, Roy ?
Fit Jonas d'un ton lourdement sarcastique. Néanmoins, quand Petit lui servit un baby whisky, il le refusa net et demanda un verre d'eau à la place. Roy tirait une drôle de gueule, décida Jonas. Deux fois trop palichon qu'il était, le père Roy. Et quand Cheb s'installa devant le clavier et plaqua un accord, de Pape pivota vivement dans sa direction, une main sur la crosse de son arme. Intéressant. Et un peu inquiétant.
Allez, accouche, fiston, qu'est-ce qui te défrise autant le poil ?
Roy secoua la tête, l'air renfrogné.
Je sais pas vraiment. Il s'appelle comment ? « L'individu. »«
Je lui ai pas demandé, il me l'a pas dit. »« Il m'a montré le sigle de Farson, quand même. »« Tu sais bien. »
De Pape baissa la voix. « L'œil. »
Jonas savait, bien sûr. Il détestait cet œil fixe, grand ouvert. N'arrivait pas à imaginer quelle mouche avait piqué Farson pour qu'il aille choisir un truc pareil. Pourquoi pas un point dans un grand clé en côte de maille, ou bien des épées en faisceau, ou encore un oiseau, un faucon, par exemple. Un faucon aurait fait un très bon sigleux. Mais cet œil...
Or bien, dit-il en vidant son verre d'eau,
ça descendait bien plus facilement que le whisky, mais de toute façon il avait le gosier sec comme de l'amadou.
Faudra que je découvre le reste par moi-même, c'est ça ?
Au moment où il poussait les portes battantes du saloon, de Pape l'appela. Jonas se retourna vers lui.
Il ressemble à d'autres personnes, fit de Pape. Explique-toi.
C'est difficile à dire. De Pape avait l'air embarrassé et dépassé, mais aussi entêté, pas prêt d'en démordre. On a parlé que 5 minutes, pas plus, mais à un moment, je l'ai regardé, et j'ai cru voir le vieux saligaud de Rizzi, celui que j'ai descendu. Un tout petit peu plus tard, je lui ai lancé un coup d'œil, je me suis dit comme ça, que je brûle en enfer si c'est pas mon pas que j'ai devant moi. Puis, il s'est pensé ça aussi, et il a eu de nouveau l'air d'être lui.
C'est-à-dire ?
Tu jugeras par toi-même, je suppose. Je pense pas que t'aimeras beaucoup ça.
Jonas, appuyé sur l'un des bâtons ouverts, réfléchissait.
Roy, c'était quand même pas farceur, l'homme de bien déguisé, comme qui dirait.
De Pape hésita, sourcils froncés, puis secoua la tête.
Non. T'es sûr? On l'a vu qu'une fois, tu te rappelles, et pas de près.
Latigo le leur avait montré du doigt, ça remontait à 16 mois, par là.
Ouais, sûr.
Tu te souviens de sa taille?
Jonas opina.
Farson n'avait rien d'un Lord Perth, mais faisait un bon 1m80 et était large d'épaules et de panse.
Cet homme est de la même taille que Clay, peut-être moins. Et sa taille ne bouge pas, quelle que soit l'apparence qu'il prend.
De Pape hésita un instant avant d'ajouter.
Il rit comme un mort. J'ai pu à peine supporter de l'entendre rire comme ça.
Comme un mort, ça veut dire quoi?
Roy De Pape secoua la tête.
Je saurais pas dire exactement.
13. 20 minutes plus tard, Eldred Jonas, passant à cheval sous Entrée en paix, pénétrait dans la cour de fond de mer, mal à l'aise, parce qu'il avait attendu Latigo. Et à moins que Roy ne se soit royalement trompé, ce n'était pas de Latigo qu'il irritait. Miguel, rictus gingival dehors, s'avança en traînant les pieds et prit les rênes de la monture de Jonas.
Et conocimiento?
Por nada, jefe.
Jonas aperçut en entrant Olive Thorin assise dans le salon de devant, comme un fantôme délaissé dans son coin, et la salua d'un signe de tête. Elle lui rendit son salut avec un petit sourire triste.
« Ça est, Jonas, vous m'avez l'air en pleine forme. Si jamais vous voyez Hart... »«
J'implore votre pardon, madame, mais c'est le chancelier. » « Que je suis venu voir, »
répondit Jonas. Il monta rapidement au premier pour gagner la suite du chancelier avant d'enfiler un étroit couloir de pierre mal éclairé par des brûleurs à gaz. Arrivé au bout du couloir, il toqua à la porte qui le barrait, en chaîne massif et cuivre, encastré dans une arche. Si Rimmer avait peu de goût pour Suzanne Delgado et ses pareils, il adorait en revanche l'apparat du pouvoir. C'était ce qui faisait sortir tout raide son colimaçon de sa coquille. Jonas frappa à nouveau.
« Entrez, mon ami !»
dit une voix qui n'était pas celle de Rimmer. L'invite fut suivi d'un petit rire maniéré qui donna la chair de poule à Jonas.
« Il rit comme un mort !» avait dit Roy.
Jonas poussa la porte et entra. Rimmer avait aussi peu de goût pour l'encens que pour les hanches et les lèvres des femmes, et pourtant l'encens brûlait ici et maintenant, une odeur boisée qui remémora à Jonas la cour à Gilead et les cérémonies officielles dans le grand hall. Les brûleurs à gaz étaient montés à fond. Les draperies de velours violet, couleur de la royauté, couleur préférée de Rimmer, tremblaient imperceptiblement sous la brise de mer qui entrait par les fenêtres ouvertes. Pas trace de Rimmer, ni de quiconque, tant qu'on y était. Des portes ouvertes donnaient sur un petit balcon, mais là non plus, il n'y avait personne. Jonas pénétra plus avant dans la pièce. Il jeta un coup d'œil dans un miroir au cadre doré sur le mur du fond pour contrôler ses arrières sans tourner la tête. Rien, ni personne, là non plus. Devant lui, sur sa gauche, il vit une table dressée pour deux couverts et un repas froid qui y attendait, mais personne d'assis. Et pourtant quelqu'un avait parlé. Quelqu'un qui, à en juger par la voix, s'était trouvé juste de l'autre côté de la porte. Jonas dégaina. « Allons, voyons !» fit la voix qu'il avait prié d'entrer, s'élevant cette fois derrière l'épaule gauche de Jonas. « Vous n'avez pas besoin de ça !»
Il n'y a que des amis ici. Nous sommes tous du même côté. Vous le savez ?
Jonas pivota sur ses talons, se sentant soudain vieux et lent. Il se retrouva face à un homme de taille moyenne, à puissante carrure, semblait-il, aux yeux d'un bleu vif et aux joues d'un rose dû à la bonne santé ou au bon vin. Son sourire révélait de petites dents pointues comme limées à cet effet, car elle n'avait rien de naturel. Il portait la robe noire d'un moine, capuchon rabattu en arrière. Jonas, qui avait d'abord cru l'homme chauve, vit qu'il s'était trompé. Son crâne avait été si rigoureusement tondu qu'il ne lui restait plus qu'un léger duvet. « Rangez donc votre pétoir, » dit l'homme en noir. « Il n'y a que des amis ici, je vous l'ai dit. De vrais culs et chemises. Nous allons rompre le pain et parler de beaucoup de choses, de bœufs, de citernes, et si oui ou non, Frank Sinatra était un meilleur crooner que Herr Crosby.
Qui ça? Meilleur quoi?
Vous ne connaissez pas, c'est sans importance. À nouveau, l'homme en noir fit sonner son rire de crécelle, et qui ressemblait, songea Jonas, à ce qu'on s'attend qui s'échappe des fenêtres à barreaux d'un asile d'aliénés. Se retournant, il contempla à nouveau le reflet dans le miroir. Cette fois, il vit l'homme en noir qui lui souriait, grandeur nature.
Mais Dieu, avait-il été là tout du long? Oui, mais tu pouvais pas le voir tant qu'il n'était pas prêt à être vu. Je sais pas s'il est magicien, mais c'est un homme glam, pour sûr. Peut-être même que Farson est un sorcier.
Il se retourna. L'homme en robe de moine souriait toujours. Mais on ne voyait plus ses dents pointues, ses dents limées pour les rendre pointues. Jonas était prêt à enficher sa montre et son billet.
« Ouais, Rimmer. »
Je l'ai expédié faire répéter son catéchisme à la jeune Saï Delgado pour le jour de la moisson, dit l'homme en noir. Il entoura d'un bras amical les épaules de Jonas, l'entraînant vers la table. Il vaut mieux que notre palabre se déroule en tête à tête, je pense. Jonas ne tenait pas à faire offense à l'envoyé de Farson, mais le contact de son bras lui fut intolérable, une vraie pestilence. Il le repoussa d'un haussement d'épaule et se dirigea vers l'une des chaises, tâchant de ne pas frissonner. Rien d'étonnant à ce que le pape soit revenu aussi livide de la roche suspendue.
Rien d'étonnant, sacre bleu.
Au lieu de se sentir offensé, l'homme en noir se mit à rire de plus belle.
Hey, songea Jonas. Il a tout à fait le rire d'un homme mort. Si fait.
À l'instant, Jonas crut que Fardo, le père de Corte, se trouvait avec lui dans cette pièce. Fardo. Celui qu'il avait envoyé dans l'Ouest, il y avait déjà tant d'années de ça, et porta à nouveau la main à son arme. Puis, il n'eut plus devant lui que l'homme en noir, lui souriant d'un air entendu des plus déplaisants, avec ses yeux d'un bleu dansant comme la flamme des brûleurs à gaz.
« Vous avez vu quelque chose d'intéressant, ça et Jonas ?»« Si fait !» répondit Jonas en s'asseyant. « De la bouffe !»
Il prit un morceau de pain et l'avala d'un coup. Le pain adhéra à sa langue desséchée, mais il ne l'en mâcha pas moins avec détermination.
« Brave garçon !»
L'autre s'assit à son tour et versa du vin, servant d'abord Jonas.
« Et maintenant, mon ami, racontez-moi tout ce que vous avez fait depuis l'arrivée de ces trois gêneurs de gamins, plus tout ce que vous savez... et avait prévu de faire. Et, sans omettre le moindre iota, ce serait préférable.
Montrez-moi d'abord votre sigle.
Bien entendu. Quel prudent vous faites.
L'homme en noir sortit de sa défroque un carré de métal, en argent, estima Jonas. Il le lança sur la table où il cliqueta jusqu'à l'assiette de Jonas. Il portait gravé ce à quoi ce dernier s'attendait, ce hideux œil fixe.
Satisfait ?
Jonas opina. Faites-le reglisser vers moi. Jonas tendit la main pour le saisir, mais sa main, ferme en temps normal, était maintenant à l'image de sa voix flûtée et mal posée. Il observa un instant ses doigts pris de tremblement, puis reposa prestement sa main sur la table.
« J'aimerais mieux pas. Non, pas question. »
Soudain, il sut que, si jamais il le touchait, l'œil gravé dans l'argent tournerait dans son orbite et se fixerait sur lui. L'homme en noir partit de son rire de crécelle et fit un geste de rappel des doigts de sa main droite. La boucle d'argent, elle apparaissait-elle à Jonas, glissa vers l'homme en noir et remonta dans la manche de sa robe tissée main.
Abracadabra, boule finie.
Et maintenant, continua l'homme en noir, sirotant délicatement son vin, si nous en avons terminé avec ces fastidieuses formalités...
« Encore une chose, » dit Jonas. « Vous connaissez mon nom, et j'aimerais connaître le vôtre. »«
Appelez-moi Walter, » dit l'homme en noir, dont le sourire disparut soudainement. « Ce bon vieux Walter, c'est moi. » »« À présent, voyons où nous en sommes. » Et où nous allons ? En bref, palabro. 14. Quand Cuthbert rentra au baraquement, la nuit était tombée. Roland et Alain jouaient aux cartes. Ils avaient si bien nettoyé l'endroit qu'il avait presque repris son aspect habituel. Grâce à l'essence de térébenthine qu'ils avaient dénichée dans un placard de l'ancien bureau du régisseur, les graffitis sur les murs n'étaient plus que les fantômes rosâtres d'eux-mêmes. Pour l'heure, ils étaient plongés dans une partie de Casafuerte, ou de Melamelu, comme on disait ce jeu dans leur partie du monde. Quelle que fût son appellation, ce n'était rien d'autre qu'une variante à deux joueurs du « Surveille-moi », le jeu de cartes qu'on pratiquait dans les saloons et les baraquements depuis la jeunesse du monde. Roland releva les yeux aussitôt, tâchant de prendre la température émotionnelle de Bert. Si extérieurement, Roland était plus impassible que jamais, ayant même fait égalité avec Alain après 4 manches difficiles, il était dans un état d'agitation intérieure où la douleur le disputait à l'indécision. Alain lui avait rapporté les propos que Cuthbert lui avait tenus dans la cour, et c'était des choses terribles à entendre de la bouche d'un ami. Même de seconde main. Ce qui le taraudait le plus, cependant, c'était ce que Cuthbert lui avait asséné juste avant de passer la porte. « Tu baptises amour ton insouciance et tu te fais une vertu de ton irresponsabilité. » Y avait-il une chance qu'il ait fait une chose pareille ? Il n'avait cessé de se répéter que non, que les directives qu'il leur avait demandé de suivre étaient dures à respecter, mais pleines de bon sens, les seules qui rimaient à quelque chose. Les gueulantes de Cuthbert n'étaient que du vent, le simple résultat de sa nervosité et de sa fureur devant l'outrage de leur sanctuaire ainsi souillé. Et pourtant... « Dis-lui que ses bonnes raisons sont mauvaises et qu'il a tort sur toute la ligne. » C'était impossible.
Vraiment.
Cuthbert souriait et avait des couleurs comme s'il était rentré au galop les 3/4 du temps. Il avait l'air jeune, beau et plein de vitalité. Heureux en un mot et en fait. Presque redevenu le Cuthbert de toujours. Celui qui était capable de babiller de joyeuses absurdités à un crâne de corneille jusqu'à ce qu'on le supplie de la fermer. Mais Roland... ne se fia pas à ce qu'il voyait. Le sourire de Bert avait quelque chose de faux, et la coloration de ses joues aurait pu trahir aussi bien la colère que la bonne santé. Quant à l'éclat de ses yeux, il évoquait plus celui de la fièvre que celui de la gaieté. Le visage de Roland ne laissa rien transparaître, mais son cœur défaillit. Il avait espéré que, La tempête se serait calmée d'elle-même au bout d'un petit moment, mais il ne croyait pas que ce fût le cas. Lançant un coup d'œil à Alain, il constata qu'il était du même avis.
« Cuthbert, tout sera fini dans 3 semaines, si seulement je pouvais te le dire. »
L'idée qui le frappa en retour était d'une simplicité renversante.
« Qu'est-ce qui t'en empêche ?»
Il prit conscience qu'il n'en savait rien. Pourquoi était-il resté sur son camp à soi ? Dans quel but ? Avait-il été aveugle ? Mais Dieu l'avait-il été ?
« Salut, Bert, » dit-il. « Tu as fait une belle balade. »«
Oui, une belle balade, je dirais même plus. Très belle. »
« Et très instructive, en plus. »«
Viens dehors, j'aimerais te montrer quelque chose. »
Roland aimait de moins en moins le mince glacis d'hilarité des yeux de Bert, mais il déposa ses cartes, masquant son jeu en un parfait éventail sur la table, et se leva.
Alain le tira par la manche. « fit-il à voix basse d'un ton paniqué. « Tu ne vois pas l'air qu'il a ?»«
Si, » répondit Roland, le cœur lourd. S'avançant vers l'ami qui ne ressemblait plus du tout à un ami, Roland se rendit compte pour la première fois qu'il avait pris ses décisions dans un état proche de l'ivresse. Mais avait-il vraiment pris des décisions ? Il n'en était plus du tout certain.
« Qu'est-ce que tu aimerais me montrer, Bert ?»«
Quelque chose de prodigieux, » répondit Bert avant d'éclater de rire. On percevait de la haine, peut-être même des envies de meurtre dans ce rire.
« Tu voudrais voir ça de près, j'en suis sûr. »«
Bert, qu'est-ce que t'as qui va pas ?» demanda Alain.
« Qu'est-ce que j'ai, moi, qui va pas ? Rien, Alain. Je suis heureux comme une flèche au lever du soleil, une abeille butinant une fleur, un poisson dans l'océan. »
Et se retournant pour franchir la porte, il partit d'un nouvel éclat de rire.
« Ne sors pas !» dit Alain. « Il a perdu l'esprit. »
« Si notre camaraderie est brisée, nous n'avons plus aucune chance de quitter Mégis vivant. » dit Roland. Cela étant, je préfère périr de la main d'un ami que de celle d'un ennemi. Et il sortit. Après un instant d'hésitation, Alain le suivit. Son visage reflétait une pure détresse.
15. La chasseresse s'était enfuie et la lune du démon ne montrait pas encore sa face, mais le ciel plein d'étoiles éclairait suffisamment pour qu'on y voie. Le cheval de Cuthbert, encore scellé, était à la tâche. Plus loin, le carré de terre battu de la cour d'entrée luisait comme un dé d'argent terni.
« Eh bien ?» demanda Roland.
Aucun d'eux n'était armé, du moins. Dieu merci.
« Qu'est-ce que tu voulais me montrer ?»«
C'est par ici. »
Cuthbert s'arrêta à mi-chemin entre le baraquement et les ruines calcinées de l'ancienne demeure. Il désigna un point sur le sol avec beaucoup d'assurance. Mais Roland ne distingua rien qui sortit de l'ordinaire. Il rejoignit Cuthbert et baissa les yeux.
Je ne vois une brillante lueur, 1000 fois celle des étoiles, explosa dans sa tête quand le poing de Cuthbert le cueillit à la pointe du menton. C'était la première fois, sauf par jeu, et quand ils étaient de tout petits garçons, que Bert le frappait. Si Roland ne perdit pas conscience, il perdit en revanche le contrôle de ses bras et de ses jambes. Ils étaient à la fois là et ailleurs, comme exilés dans un autre pays, battant l'air tels les membres d'une poupée de chiffon. Il s'affala sur le dos, soulevant des nuages de poussière. Les étoiles semblaient affectées d'un étrange mouvement en arc de cercle, laissant des traînées laiteuses dans leur sillage. Les oreilles lui tintaient. Il entendit de très loin Alain qui criait
« Imbécile, espèce d'idiot stupide !»
Au prix d'un effort formidable,
Roland réussit à tourner la tête. Il vit Alain se porter vers lui et Cuthbert, qui ne souriait plus, le repoussait.
« C'est entre lui et moi, Al. Toi, tu restes en dehors.
Tu l'as frappé en traître, salopard !»
Alain, lent à s'échauffer, développait une colère que Cuthbert pourrait bien regretter. « Il faut que je me remette debout, songea Roland. Il faut que je m'interpose avant que quelque chose d'encore pire n'arrive. » Il se mit à remuer faiblement bras et jambes dans la poussière.
« Oui, il nous a traités de la même manière, » dit Cuthbert. « Je n'ai fait que lui retourner le compliment. »
Il baissa les yeux.
« Voilà ce que je voulais te montrer, Roland. Ce petit arpent de poussière que tu as mordu. Si tu mâches bien, peut-être que ça te remettra les idées en place. »
À présent, la moutarde montait au nez de Roland. Sentant une froideur infiltrer ses pensées, il lutta contre elle pour mieux constater sa défaite. Jonas ne comptait plus, les citernes de Sidgo ne comptaient plus, même le complot d'approvisionnement qu'ils avaient découvert ne comptait plus. Sous peu, l'affiliation et le cathet qu'ils s'étaient donné tant de peine pour préserver cesseraient de compter, eux aussi. Ses jambes et ses pieds perdant leur engourdissement superficiel, il se redressa en position assise. Il leva calmement les yeux vers Bert, les mains serrées, le visage fermé. Il voyait encore plein de petites étoiles.
« Je t'aime beaucoup, Cuthbert. » Mais je ne supporterai pas plus longtemps ton insubordination et tes crises de jalousie. Si je te rendais la monnaie de ta pièce pour l'ensemble, je crois bien qu'on pourrait numéroter tes abattis. Aussi vais-je me contenter de te châtier pour m'avoir frappé sans que je l'aie vu venir.
Et je te fais confiance pour ça, mon goujat, répliqua Cuthbert, s'alignant sans effort sur le patois d'Ambry. Mais d'abord, tu pourrais avoir envie de jeter un œil là-dessus. » Et il lui lança presque dédaigneusement une feuille de papier qui, frappant la poitrine de Roland, atterrit sur ses genoux. Roland s'en saisit, sentant déjà s'émousser le pic de sa colère grandissante.
« C'est quoi ?
Ouvre et vois par toi-même. On peut lire à la lueur des étoiles. »
Roland déplia lentement, avec répugnance, la feuille de papier où il lut ce qui suit. « Fini sa pureté, Wildir Born l'a possédé par tous les trous, si fait, qu'est-ce que tu dis de ça ?»
Roland lut et relut. La seconde fois, il eut plus de mal, car ses mains s'étaient mises à trembler. Il revit chaque endroit de ses rendez-vous avec Suzanne, le hangar à bateau, la cabane, la bicoque, mais sous un nouvel éclairage, sachant à présent que quelqu'un d'autre les avait vus aussi. Et dire qu'il avait cru qu'il faisait preuve de beaucoup d'astuces. Comme il s'était montré confiant quant à leur discrétion et à leur capacité à préserver leurs secrets. Et pourtant, quelqu'un n'avait cessé de les épier. Suzanne avait raison. Quelqu'un avait tout vu.
J'ai tout risqué, la vie de Suzanne, comme la nôtre à tous les trois.
Raconte-lui ce que je t'ai dit sur la porte de l'enfer. Et la voix de Suzanne d'enchaîner, le cas est comme le vent. Si tu m'aimes, alors aime-moi jusqu'au bout. Et lui avait obéi, persuadé avec l'arrogance de sa jeunesse que tout tournerait bien sans autre raison. Oui, il avait cru cela dans son fort intérieur, que lui, c'était lui, et que le cas devait être au service de son amour.
J'ai fait l'idiot, dit-il.
Et sa voix tremblait, comme ses mains.
« Oh oui !» dit Cuthbert.
« Pour sûr !» Il tomba à genoux dans la poussière en face de Roland.
« Si tu veux me frapper maintenant, ne te gêne pas. Cogne aussi fort que tu veux et autant que tu peux. Je ne te rendrai pas tes coups. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te réveiller et te remettre face à tes responsabilités. » « Si tu dors encore, qu'il en soit ainsi. Quel que soit le cas de figure, je t'aime toujours. »
Bert saisit Roland aux épaules et planta un baiser rapide sur la joue de son ami. Roland se mit à pleurer. Ses larmes étaient des larmes de gratitude, mais aussi de honte et de confusion mêlées. Au plus obscur de son être, une infime partie de lui-même détestait Cuthbert et le détesterait à tout jamais. Cette haine était davantage due à son baiser qu'au coup de poing à la mâchoire qu'il n'avait pas vu venir, plus à son pardon qu'à sa remise des pendules à l'heure. Il se leva. Tenant toujours la lettre dans l'une de ses mains salies de poussière, il l'essuya du revers de l'autre, sans grande efficacité, ses joues humides. Il chancela, mais quand Cuthbert avança la main pour lui éviter de perdre l'équilibre, Roland le repoussa si violemment que Cuthbert serait tombé à son tour si Alain ne l'avait pas attrapé par les épaules. Puis, très lentement, Roland se laissa retomber, mais cette fois devant Cuthbert, main levée et tête basse.
« Roland, non !»
s'écria Cuthbert. « Si, » dit Roland, « j'ai oublié le visage de mon père, j'implore ton pardon. »«
Oui, d'accord, oui, au nom des dieux !»
C'était au tour de Cuthbert de donner l'impression qu'il pleurait.
« Mais relève-toi, je t'en prie, ça me brise le cœur de te voir comme ça !»«
Et à moi de m'humilier comme ça, » songea Roland.
« Mais j'ai tout fait pour en arriver là, n'est-ce pas? À cette cour obscure, avec ma tête en feu et mon cœur qui déborde de honte et de peur. C'est mon lot acheté et payé !»
Ils l'aidèrent à se relever, et Roland les laissa faire. « T'as une sacrée gauche, Bert !» dit-il d'un ton qui aurait pu passer pour normal. « Seulement quand on la voit pas venir, » tempéra Bert. « Cette lettre, comment est-elle tombée entre tes mains ?» Cuthbert lui narra sa rencontre avec Chimmy, paniqué et en détresse, comme s'il attendait une intervention du cas. Et, en la personne de Arthur Heath, le cas avait fait son office. « Elle est de la sorcière, donc ?» fit Roland d'un ton rêveur. Oui, mais comment est-elle au courant? Elle ne quitte jamais le chaos, du moins à ce que m'a dit Susan. Je n'en sais rien, et je m'en moque. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de m'assurer que Chimmy ne pâtisse pas de m'avoir parlé et donné ce billet. Ce qui m'intéresse ensuite, c'est que la vieille Réa ne tente pas une nouvelle fois de communiquer ce qu'elle a découvert. « Si j'ai commis une terrible erreur, » dit Roland, « ce n'est pas d'avoir aimé Susan. Ni moi, ni elle, n'y pouvions rien changer. Vous me croyez ?»«
Oui, »
dit Alain aussitôt. Au bout d'un instant, et presque à contre-cœur, Cuthbert dit « Si fait, Roland. Je me suis montré arrogant et stupide. Si ce billet avait été remis à sa tante, elle risquait d'être envoyée en exil. Et nous au diable par le truchement d'une corde de pendu, ajouta sèchement Cuthbert. Même si je sais que cela te semble peu de chose en comparaison. Et la sorcière? Demanda Alain. Qu'est-ce qu'on va faire à son sujet? Roland se tourna avec un petit sourire vers le nord-ouest. Réa, dit-il. Avant toute autre chose, c'est une faiseuse d'embrouille de première, pas vrai? Et les faiseuses d'embrouille, il faut les mettre au pas. Il repartit vers le baraquement, la démarche lourde, l'oreille basse. Cuthbert, regardant Alain, vit que ce dernier avait lui aussi la larme à l'œil. Bert lui tendit la main. Alain la fixa un instant sans la prendre. Puis il opina, son mouvement de tête semblait plus à sa propre adresse qu'à celle de Cuthbert, et la serra. « Tu as fait ce que tu devais faire, » dit Alain. « J'en ai douté au début, mais plus maintenant. » Cuthbert exhala un soupir de soulagement. « Et j'ai agi comme je devais le faire. Si je ne l'avais pas pris par surprise, il t'aurait roué de coups, et t'en aurais vu des vertes et des pas mûres. toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, convint Cuthbert.
Je dirais même plus, toutes celles de l'arc-en-ciel du magicien, dit Alain.
Plein d'autres couleurs, pour peur.
Là-dessus, Cuthbert éclata de rire. Tous deux revinrent vers le baraquement où Roland décelait le cheval de Bert. Ce dernier s'apprêtait à aller lui prêter main forte, mais Alain le retint.
« Laisse-le tranquille un petit moment, » fit-il.
« Ça vaut mieux. » Ils entrèrent, et quand Roland les rejoignit à son tour 10 minutes plus tard, il trouva Cuthbert en train de jouer la manche à sa place. Et il gagna.
« Bert, » fit-il.
Cuthbert leva les yeux. « Toi et moi, on a une petite affaire à régler demain, là-haut, sur le Curse. On va la tuer. » Roland accorda à la chose un long moment de réflexion. Il releva enfin les yeux et dit en se mordant les lèvres, « On devrait. »«
Si fait. »«
On devrait. »« Mais est-ce qu'on va le faire ?»«
Non. »
À moins d'y être obligé, je suppose. Plus tard, il regretterait amèrement cette décision, si c'en était bien une, tout en comprenant pourquoi il l'avait prise. Il n'était guère plus âgé que Jake Chambers cet automne-là, à Mégis, et décider de tuer ne vient ni facilement ni naturellement à l'esprit de la plupart des garçons de cet âge. Pas à moins qu'elle nous y force.
Vaudrait peut-être mieux qu'elle fasse en sorte, dit Cuthbert.
C'était le langage rude d'un pistolero, mais il ne parut pas troublé de le tenir.
Oui, peut-être.
Mais ce n'est guère probable. Elle est bien trop rusée pour ça. Prépare-toi à te lever tôt.
Très bien. Tu veux que je te redonne la main ?
Alors que tu vas lui mettre la pâtée, pas question. Roland, passant devant eux, gagna sa couchette où il s'assit, se perdant dans la contemplation de ses mains croisées sur ses genoux. Il aurait pu tout aussi bien être en prière que plongé dans ses pensées. Cuthbert l'observa un instant, puis reporta son attention sur le jeu.
16.
Le soleil était au ras de l'horizon quand Roland et Cuthbert se mirent en route le lendemain matin. L'aplomb, encore détrempé de rosée, semblait incendié d'un flamboiement orange dans le jour qui se levait. La respiration des deux garçons et le souffle de leurs chevaux se condensaient en petits nuages dans l'air vif. Commençait une matinée que ni l'un ni l'autre ne devait oublier jamais. Pour la première fois de leur vie, ils arboraient des étuis à revolver. Pour la première fois de leur vie, ils pénétraient dans le monde des pistoleros. Cuthbert ne disait mot. Il savait qu'une fois lancé, il ne ferait que babiller des flots d'absurdité à son habitude. Et Roland était taciturne par nature. Ils n'eurent qu'un bref échange. « Je t'ai dit que je n'avais commis qu'une terrible erreur, » commença Roland. « C'est ce billet, » il toucha sa poche poitrine, « qui m'a rafraîchi la mémoire. « Et tu sais quelle est l'erreur que j'ai faite ?»«
Pas d'aimer Suzanne, non. »«
Pas ça, » dit Cuthbert. « Tu appelles ça le cas, et j'appelle ça tout pareil. » Ce fut un grand soulagement pour Cuthbert d'être capable de dire cela, et un soulagement encore plus grand d'y croire. Cuthbert pensait qu'il pouvait même accepter Suzanne à présent. Non comme la maîtresse de son meilleur ami, une fille que lui-même avait désirée dès qu'il l'avait vue, mais comme faisant partie de l'intersection de leur destinée.
« Non, » reprit Roland. « Pas de l'aimer, mais de croire que cet amour pouvait demeurer à l'écart de tout le reste, que je pouvais vivre une double vie, une avec toi et Al et notre boulot ici, l'autre avec elle. » J'ai cru que l'amour pourrait me dérober au cas comme les ailes d'un oiseau peuvent le dérober à tous ses ennemis. Tu comprends?
Il t'a aveuglé, dit Cuthbert avec une gentillesse tout à fait étrangère au jeune homme qui avait souffert ces 2 derniers mois.
Oui, dit Roland avec tristesse. Il m'a aveuglé. Mais à présent, je vois clair. Allons, pressons un peu l'allure, s'il te plaît. J'ai hâte d'en avoir fini. 17. Ils gravirent à cheval le chemin Chartier plein d'ornières que Suzanne, une Suzanne alors bien moins au fait des usages du monde, avait monté en chantant « Amour insouciant » à la clarté de la lune des baisers. Quand le chemin s'ouvrit pour laisser place à la cour de Réa, ils arrêtèrent leur monture. « Quelle vue magnifique !» murmura Roland. « On peut voir d'ici toute l'étendue du désert. On ne peut pas en dire autant de ce qu'il y a devant nous. » Ce qui n'était que trop vrai. Le potager était plein de légumes mutés que personne ne s'était donné la peine de ramasser. Le pantin du chiffon qui les présidait faisait l'effet soit d'une mauvaise plaisanterie, soit d'un mauvais augure. La cour n'offrait qu'un seul arbre, perdant ses feuilles mortes à l'image d'un vieux vautour tout déplumé. La masure proprement dite se trouvait au-delà de cet arbre. Construite en pierre grossière, elle était coiffée d'un unique tuyau de cheminée noir de suie où était peint en jaune sarcasme un signe cabalistique. Au fond, dans le coin, on apercevait un tas de bois. Roland avait vu nombre de masures semblables. Lui et ses deux compagnons étaient passés devant en venant de Gilead jusqu'ici. Mais aucune ne lui avait paru aussi puissamment anormale que celle-ci. Cela ne tenait pas tant à ce qu'il voyait qu'à l'impression, trop forte pour être niée, d'une présence. Celle de quelqu'un qui guettait, à l'affût. Cuthbert avait la même. « Doit-on approcher ? » fit-il en déglutissant. « Faut-il qu'on entre ? Parce que, Roland, la porte est ouverte. Tu as vu ?» Il avait vu. Comme si elle les attendait. Comme si elle les invitait à entrer et à prendre part avec elle à son innommable petit déjeuner. « Reste ici. » Roland poussa Flash en avant. « Non, je viens avec toi. »« Non, couvre mes arrières. Si je suis obligé d'entrer, je te hèlerai pour que tu me rejoignes. Mais si je suis obligé d'entrer, la vieille qui vit là ne respirera plus. Et comme tu l'as dit, ça vaudrait peut-être mieux. » Flash avançait au pas et Roland sentait croître dans son cœur et son esprit cette impression d'anormalité. L'endroit empestait, envahi d'une odeur de charogne et d'un brouet réchauffé de tomates pourries. Elle s'échappait de la masure, supposa-t-il, mais paraissait en même temps s'élever du sol. Et à chaque pas, le geignement de la tramée semblait plus fort, comme si l'atmosphère ambiante ne faisait que l'amplifier. Susan est montée ici, toute seule et dans le noir, songea Roland. Mais Dieu, je ne suis pas certain que j'aurais pu en faire autant malgré la compagnie de mes amis. Il fit halte sous l'arbre et observa par la porte béante à peine à 20 pas. Il aperçut ce qui aurait pu passer pour une cuisine, les pieds d'une table, le dossier d'une chaise, une pierre de foyer encrassée. Nulle trace de la dame de ces lieux. Mais elle était là. Roland pouvait la sentir promener ses yeux sur lui comme de répugnants insectes. Je n'arrive pas à la voir car elle a dû user de son art pour s'estomper, mais elle n'en est pas moins présente. Mais peut-être la voyait-il tout bonnement. L'air chatoyait étrangement, à droite, près de la porte, à l'intérieur, comme si on l'avait chauffé. On avait raconté à Roland que l'on pouvait distinguer quelqu'un d'estompé en tournant la tête et en épiant du coin de l'œil. Ce qu'il fit. « Roland ?» appela Cuthbert dans son dos. « Jusqu'ici, tout va bien, Bert. » Il ne faisait pas attention aux mots qu'il disait, car... « Oui !» Ce chatoiement était moins indistinct à présent et dessinait presque la forme d'une femme. C'était peut-être un tour de son imagination, bien entendu, mais à ce moment-là, comme si elle comprenait qu'il l'avait deviné, le chatoiement recula dans l'ombre. Roland eut le temps d'apercevoir le bord ondulant d'une vieille robe noire, puis plus rien. Peu importe. Il n'était pas venu pour la voir, mais pour lui donner un avertissement, ce qui était toujours plus que ce que leur père lui aurait donné, sans doute. « Réa !» Sa voix gronda avec sa sévérité et son âpreté d'autrefois, et sur un ton comminatoire. Deux feuilles jaunies se détachèrent de l'arbre, comme libérées, toutes frissonnantes par cette voix, et l'une d'elles vint se prendre dans les cheveux noirs de Roland. De la masure ne monta qu'un silence attentif et attentiste, puis le miaulement discordant et moqueur d'un chat.
« Réa ! Fille de personne ! Je te rapporte quelque chose qui t'appartient, femme ! Une chose que tu dois avoir perdue !»
Il sortit de sa chemise la lettre pliée et la jeta sur le sol rocailleux.
« Aujourd'hui, je me suis montré ton ami, Réa. Car si cette lettre avait atteint sa destinataire, tu l'aurais payée de ta vie. »
Il marqua un temps. Une autre feuille volta de l'arbre. Celle-ci atterrit dans la crinière de Flash.
« Écoute-moi bien, Réa, fille de personne, et comprends-moi bien. Je suis venu ici sous le nom de Will Dearborn. » Mais Dearborn n'est pas mon vrai nom et je suis au service de la filiation. Il y a plus. Il y a tout ce que sous-tend la filiation, à savoir la puissance du blanc. Tu t'es mis en travers du chemin de notre cas, je ne te préviendrai qu'une seule fois, ne t'y retrouve pas une nouvelle fois. Tu m'as compris ?
Rien que ce silence attentiste.
Ne t'avise pas de toucher un seul cheveu de la tête du garçon que tu avais chargé de propager ta mauvaise action, ou tu mourras. Plus un seul mot de ce que tu sais ou crois savoir à quiconque, ni à Cordelia Delgado, ni à Jonas, ni à Rimmer, ni à Thorin, ou tu mourras.
Tiens-toi tranquille, et nous nous tiendrons tranquilles. N'en fais qu'à ta tête, et on saura te calmer. Tu m'as compris ? Le silence s'accrut encore. Les vitres sales des fenêtres le scrutaient comme des yeux. La brise souffla, faisant pleuvoir d'autres feuilles autour de lui et craquait vilainement le pantin de chiffon sur son piquet. Roland se remémora brièvement Hax le cuisinier se balançant au bout d'une corde.
Tu m'as compris ?
Pas de réponse. Il ne voyait plus aucun chatoiement par la porte ouverte à présent.
« Très bien !» fit Roland en conclusion. « Qui ne dit mot consent ?»
Il fit tourner bride à son cheval. Ce faisant, il leva légèrement la tête et aperçut quelque chose de vert se glisser parmi le jaune des feuilles au-dessus de sa tête. Puis entendit un faible sifflement.
« Attention, Roland ! Un serpent !»
hurla Cuthbert. Mais avant même que la menace se fût précisée, Roland avait dégainé l'un de ses revolvers. Il se baissa en biais sur sa selle, s'arc-boutant de la jambe gauche et du talon, tandis que Flash piaffait et caracolait. Il tira à trois reprises, déclenchant un tonnerre qui déchira le calme de l'atmosphère et dont les collines voisines renvoyèrent le roulement. À chaque coup de feu, le serpent rebondissait en l'air, son sang ajoutant des taches rouges au bleu du ciel et au jaune du feuillage. La dernière balle le décapita, et quand il retomba sur le sol pour de bon, ce fut en deux tronçons. De l'intérieur de la masure s'éleva une plainte de rage et de douleur si atroce qu'elle glaça l'épine dorsale de Roland. «
Espèce de salopard ! »
hurla une voix de femme tapie dans l'ombre.
« Goujat assassin ! Mon ami ! Ah ! Mon doux ami ! » !»«
Si c'était ton ami, il ne fallait pas le dresser contre moi !» dit Roland. « Souviens-t'en, Réa, fille de personne !»
La voix poussa un autre cri perçant, puis se tut. Roland rejoignit Cuthbert tout en rengainant son arme. Bert ouvrait des yeux ronds d'effarement.
« Roland ! Quel carton ! Mes dieux, quel carton !
Partons d'ici. Mais on ignore toujours comment elle a su. Tu crois qu'elle nous le dirait ?» La voix de Roland tremblait imperceptiblement. Cette façon que le serpent avait eu de surgir d'entre les feuilles à l'improviste et de le menacer, il avait encore du mal à croire qu'il en ait réchappé. « On pourrait la forcer à parler ?» suggéra Cuthbert. Mais à son ton, Roland pouvait affirmer que Bert n'avait aucun goût pour ce genre de recours. Plus tard, peut-être, après bien des années, à courir les routes en pistolero, il aurait assez d'estomac pour torturer et tuer sur place n'importe qui, mais pour le moment, certainement pas. Même si on en était capable, on pourrait pas lui faire dire la vérité. Elle, si pareille, ment comme elle respire. Si on l'a convaincue de se taire, on en a assez fait pour aujourd'hui. Bien. Je déteste cet endroit. 18. Pendant leur chevauchée vers la ville, Roland dit « Il faut qu'on se réunisse. »
Tous les quatre, tu veux dire ?
Oui. Je veux vous dire tout ce que je sais et tout ce que je subodore. Je veux vous parler de mon plan, si l'on peut parler de plan, et vous apprendre pourquoi nous avons attendu.
Ce serait une très bonne chose, en effet.
Suzanne peut nous être utile. Roland semblait se parler à lui-même. Cuthbert s'amusa de voir que la feuille prise dans ses cheveux lui faisait comme une couronne. Suzanne était toute désignée pour nous aider. Pourquoi ne l'ai-je pas vue ?
Parce que l'amour est aveugle, dit Cuthbert légèrement sarcastique en frappant Roland sur l'épaule.
Eh oui, mon vieux, l'amour est aveugle.
19. Une fois sûr que les garçons étaient partis, Rhea franchit furtivement la porte et sortit au soleil qui lui était si odieux. Elle boitilla jusqu'à l'arbre et, tombant à genoux près des restes de son serpent, se mit à sangloter bruyamment.
« Hermate, Hermate !»
s'écria-t-elle.
« Vois ce qu'ils ont fait de toi !»
La tête gisait d'un côté, la gueule ouverte, les deux crocs dégoûtant encore leur poison, gouttelettes transparentes qui étincelaient comme de minuscules prismes dans la clarté du jour qui s'accentuait. Le reptile avait l'œil vitreux et furieux. Rhea ramassa Hermot et baisa sa gueule écailleuse, buvant les dernières gouttes de venin, pleurant et ramageant à qui mieux mieux. De l'autre main, elle saisit le long corps déchiqueté, gémissant à la moindre blessure qui trouait sa peau satinée, mettant à nu la chair rouge. Deux fois, elle pressa sa tête contre la dépouille d'Hermot, prononçant des incantations non suivies d'effet. Évidemment. Hermot était maintenant hors de portée de ses sortilèges. Pauvre Hermot. Pressant la tête d'une part, le corps de l'autre contre ses mamelles flétries, les dernières gouttes du sang d'Hermot mouillant le corsage de sa robe, elle fixa la direction que les garçons avaient prise.
« Je vous revaudrai ça !»
murmura-t-elle.
« Par tous les dieux qui ont jamais existé, je vous revaudrai ça !»« Quand vous vous y attendrez le moins, rien !» sera là et vos cris vous déchireront le gosier. Vous m'entendez ? Vos cris vous déchireront le gosier.
Elle resta encore un petit moment à genoux, puis se releva et regagna sa masure d'un pas lourd,
serrant Hermote sur son cœur.